Je redonne la parole à Florence Pasquier qui, elle, trouve que ces médicaments sont efficaces. Est-ce que c'est parce qu'on ne s'est pas donné une échelle dans le temps qu'il y a ce débat ? C'est-à-dire que 2 ou 3 ans de vie conservée à l'âge de 80 ans, c'est l'éternité, alors que effectivement, quand on est jeune, c'est un peu différent. Est-ce que c'est, vous êtes peut-être pas d'accord sur ce que ça amène en réalité ?
Il me semble qu'on n'a pas très très bien communiqué sur ces médicaments. Ces médicaments sont des traitements symptomatiques qui ont une efficacité absolument démontré, Bruno Dubois vient de le dire, mais il n'empêche pas la progression de la maladie. C'est-à-dire qu'on n'agit pas sur les phénomènes physiopathologiques qui entraînent un déclin. Donc, on verra le malade continuer à s'aggraver sous le traitement. Mais il s'aggrave moins que s'il ne prenait rien. Et c'est ce différentiel entre il continue à se dégrader parce que c'est l'évolution naturelle de sa maladie versus grâce à ses traitements symptomatiques, on arrive à améliorer un peu leur quotidien. Bon, et ça, c'est vrai que c'est pas pour toute l'année, pour toute la durée de la maladie.
Sophie Lemonnier.
On peut dire que ce sont presque des traitements symptomatiques et pas du tout étiologiques, donc.
Pour l'instant, les médicaments dont on dispose sont effectivement symptomatiques.
Alors, on va écouter quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec vous, mais après, on reviendra pour vous poser quelques questions. Docteur Dupagne, pourquoi vous êtes plus sceptique devant ces médicaments ?
On ne peut pas contester les études qui sont une réalité objective et qui montrent une différence significative en faveur des produits. Mais nous savons aussi qu'une différence significative n'est pas forcément signifiante sur le plan clinique et que des différences d'échelle peuvent avoir un retentissement extrêmement minime sur la vie des personnes. Il a été dit aussi que ces médicaments ralentissent la maladie et nous sommes confrontés à des gens qui ne vont pas mieux, mais qui sont censés ne pas aller moins bien. Et donc, c'est quelque chose qui est très difficile à apprécier. Si les médicaments étaient tout à fait anodins, comme les extraits de ginkgo biloba qu'on pouvait avoir avant, le problème ne se poserait pas, mais on est face à des problèmes terribles d'effets indésirables. Et avec un biais qui explique sans doute la différence de ressenti entre des spécialistes et des généralistes, c'est-à-dire que les gens qui supportent bien ces médicaments continuent à aller chez le gériatre, chez le neurologue, et les gens qui ne supportent pas n'y vont plus et vont chez nous. Et donc nous ne voyons plus les mêmes patients au bout d'un moment.
Alors là, il y a 2 éléments dans le débat. On va faire répondre. Vous répondez à la première partie, Bruno.
Oui, bah j'ai bien entendu ce que dit notre confrère M. Dupagne, et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, notamment sur le point que ce sont pas des médicaments qui ralentissent le processus pathologique. Ça, c'est très important. Je crois que là, il y a eu une communication excessive en disant que ça ralentit la maladie. Non, ça ralentit pas la maladie. On est d'accord. Mais le point sur lequel je voudrais revenir, c'est que pour moi, la chose la plus intéressante dans ces médicaments, ça n'a pas encore été dit, c'est que ça a permis aux malades de venir dans le domaine médical. Car si on n'a pas de médicaments, eh bien, les malades ne viennent pas voir les médecins. Et si, justement, je suis content que vous ayez cette expérience. Ça veut dire que vous voyez des patients qui viennent vous voir, les patients viennent nous voir, on les a sortis des arrière-cuisines dans lesquelles ils croupissaient, ils sont venus à l'hôpital, ils sont venus voir les médecins en médecine libérale, ils sont venus voir les généralistes, et grâce à ça, on a pu encadrer la prise en charge. Alors, et c'est ça l'intérêt du médicament.
Alors, c'est le principe d'un débat, je donne la parole à tout le monde. D'abord, Dominique Dupagne, et après, on ira voir nos autres invités.
Juste brièvement, les patients n'ont pas attendu ces médicaments pour consulter les généralistes. Ce sont les neurologues qu'ils ont consultés du fait de ces médicaments. Mais bien évidemment, ils étaient suivis et médicalisés en médecine générale depuis toujours.
Avec peut-être une autre étiquette que celle d'Alzheimer.
On appelle ça des démencéniles, c'est une étiquette différente, mais le malade était le même et la maladie était la même.
Oui, alors, est-ce que c'est le prix, Monsieur Dupagne, est-ce que c'est, à votre avis, c'est le prix à payer des effets secondaires ? Parce que c'est ça qui vous dérange, finalement.
On va y venir.
Qu'il y ait une prise en charge. Oui, mais je pense que c'est au cœur du débat, là, puisque c'est votre frein. C'est le frein que vous émettez face
à... L'argumentation que j'entends est celle qui a été reprise par la HAS, par la commission de transparence, qui, en revalidant ces médicaments, a dit leur efficacité est modeste. En revanche, ils permettent de structurer la prise en charge.
Elle a la réputation d'être pas si tendre que ça, la commission de transparence, quand même, en règle générale.
Ça dépend. C'est assez variable suivant les sujets. En tout cas, c'est un argument que j'entends également. Mais ce que vous me dites, c'est que ces médicaments ont apporté un tel flux d'intérêts, de finances, de communication, d'événementiel autour de la maladie, que cela a permis de financer des réseaux, que cela a permis de financer des événements, une prise en charge, des consultations mémoire. C'est une masse d'argent qui a été affectée beaucoup sur le médicament et sur l'hôpital qui va avec. En revanche, on attend beaucoup des aides pour les familles, on va en parler tout à l'heure, mais moi, en tant que généraliste, l'impression que j'ai, c'est que ce budget qui va autour du médicament, autour de la prescription du médicament, de l'hôpital de jour, est un budget qui n'est pas disponible pour des besoins plus primaires pour les patients, alors que des médicaments plus simples et moins dangereux pourraient avoir des effets aussi efficaces dans la structuration.
Vous avez le docteur Chambon oui, a rejoint votre camp.
Je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit, effectivement, puisque dans le cas du plan d'Alzheimer qui a été décidé en septembre 2007 et confirmé en 2008, des sommes considérables ont été allouées à cet effet. Effectivement, le médecin généraliste ne voit pas trop d'aide particulière par rapport à son activité. Et donc ça me paraît très important de la remettre ensuite au cœur du débat.
Florence Pasquier, tout l'argent va chez vous ?
Non, je crois qu'il faut quand même remettre à leur place les sommes qui sont attribuées aux médicaments. Les médicaments ne sont pas finalement si chers que ça par rapport au prix que paye effectivement la famille et les personnes qui s'occupent du malade.
Si vous êtes d'accord, docteur Dupagne, là-dessus, est-ce que vous mettez vos malades Alzheimer sur ce type de thérapeutique ?
Non, en général, je déconseille la mise en route de ces thérapeutiques. Nous parlions tout à l'heure du ressenti de chacun. Bien sûr, il y a...
Et comment c'est perçu par les familles, par exemple ?
Assez bien. Ouais. Assez bien, surtout quand ils ont dans leur entourage des gens qui ont mal supporté le traitement. On parlait de quotidien tout à l'heure. Moi, mon quotidien, c'est de voir arriver une personne âgée qu'on m'amène parce que je soigne la famille et qui me dit « je comprends pas, elle va pas bien ».
Mais c'est un message sans espoir, quand même.
Ah, pas du tout, pourquoi sans espoir?
Si vous dites qu'il n'y a pas de thérapeutique, je ne vais pas vous donner de médicaments parce qu'il y a des effets secondaires, ça veut dire qu'après, derrière ça, il n'y a rien. Il y a d'autres à subir l'évolution de la maladie, certes dignement.
Bien sûr, le médecin doit donner de l'espoir. Pasteur disait « guérir parfois, consoler toujours
». Oui, mais là, en l'occurrence...
Mais ce n'est pas parce que nous sommes face à une maladie grave et fatale que nous sommes obligés d'avoir une intervention qui va être potentiellement délétère. C'est pas une obligation. Nous devons peser le pour et le contre.
Alors là, je crois qu'on...
Oui, il y a quand même une perte de chance. Parce que à partir du moment où il y a un médicament qui a montré son efficacité, ne pas le proposer parce qu'il pourrait y avoir éventuellement un effet secondaire, c'est quand même faire... Là, ça, il y a un problème presque éthique.
Est-ce qu'il peut y avoir un problème de responsabilité pénale ou face à ce problème?
Pour qu'il y ait une perte de chance, il faudrait prouver que les avantages du médicament l'emportent sur ses inconvénients. Ce qu'on a prouvé pour l'instant, c'est que l'effet du médicament sur la maladie est significatif sur certains items. Ça, c'est incontestable. Maintenant, que le patient aille mieux, personne ne l'a jamais prouvé pour l'instant. Et moi, dans mon quotidien, je vois des gens qui vont plutôt plus mal. Donc forcément, je ne suis pas emballé à l'idée de les envoyer dans des
consultations. Il a été montré quand même un retard de l'institutionnalisation quand même. C'est quand même une preuve d'une certaine efficacité. On peut discuter l'intérêt de cela, mais je pense que pour le patient, c'est quand même pas mal de savoir que sous ce médicament, il va peut-être aller plus tardivement dans une institution.
C'est un critère parmi d'autres.
Alors, rappelons que Dominique Dupagne est médecin généraliste à Paris, mais que nous avons aussi dans ce studio Philippe Chambreau, qui est médecin généraliste également à Paris, mais avec une clientèle à forte activité gériatrique, et vous avez envie de réagir sur ce que vient de dire votre confrère généraliste.
Notamment sur cet aspect, parce qu'on ne peut pas contester que l'intérêt du traitement n'est pas tant pour le patient, ce qui vient d'être dit par Bruno Dubois, ce qui est important bien évidemment, que pour toute la famille entière. La pathologie d'Alzheimer n'est pas une maladie du patient, mais de toute une famille, et proposer quelque chose et un espoir à la fois à un patient et à son environnement, ça me paraît déterminant. L'absence de traitement, certes, peut être corrigée par des choses qui ont été faites depuis la nuit des temps pour des pathologies neurologiques dégénératives pour lesquelles il n'y avait pas de traitement auparavant. Mais enfin, avoir quelque chose et un espoir pour les patients et pour leur famille, c'est déterminant. Ça me paraît incontestable.
Alors, on a vu que pour vous, le problème, vous disiez, c'est le problème de les arrêter. Mais déjà, on va dire, quand faut-il les instituer, les instaurer? Vous, Bruno Dubois, Florence Paquet, vous dites tout diagnostic d'Alzheimer doit bénéficier d'un traitement?
Oui, moi je propose le traitement à chaque fois que le diagnostic de maladie d'Alzheimer est fait, dans les règles de prescription.
Le plus tôt possible.
Dès que les gens ont les critères pour être traités.
Alors justement, est-ce qu'on ne pourrait pas, M. Dupagne, couper un petit peu la poire en deux? Est-ce qu'il y a des patients qui pourraient être vraiment, qui devraient recevoir ce traitement et d'autres un peu moins?
Apparemment,
pourraient être
non,
moins intransigeants.
Non, mais parce que la discrimination.
Non, mais c'est certain, mais c'est un point de vue. Ça peut y avoir un autre et couper
nous
la poire en deux.
Nous savons que les études cliniques, qui est vraiment le standard d'évaluation des produits, mélange différentes catégories de patients. Il est toujours possible qu'au sein d'une population, il y ait une sous-catégorie de patients répondeurs, et parfois, le médecin, par son expérience, identifie ce type de population. Donc, on pourrait imaginer, en effet, qu'on essaye le médicament et que finalement, on le garde chez ceux qui vont mieux. Mais on a ce type de réponse avec des médicaments placebo, on a ce type de réponse, et de façon très significative. Et donc, si on devait se lancer dans ce genre de démarche, qui est tout à fait intéressante, le BM ne dit pas qu'on doit absolument faire que des essais contrôlés. On peut aussi se fier à son expérience. Pourquoi ne pas utiliser des médicaments beaucoup plus anodins qui aussi permettrait de structurer la prise en charge, qui aussi permettrait de donner de l'espoir aux familles. On a parlé d'espoir tout à l'heure, mais à quoi sommes-nous confrontés, nous, médecins généralistes? C'est qu'il y a un espoir qui est donné par une communication grand public qui est très importante autour de l'Alzheimer, que les gens sont persuadés qu'on va améliorer leurs parents âgés, et ils vont donc dans des consultations spécialisées, parfois même sans passer par nous, et ils reviennent nous voir avec une prise en charge qui est déjà faite, avec un traitement qui est déjà instauré. Il nous est très difficile à nous d'essayer de relativiser les choses et de dire, vous savez, c'est pas obligatoire que ça va mieux se passer qu'avant.
Bruno Dubois, est-ce que c'est pas un problème de communication entre vous, médecins, plutôt qu'un problème d'effet indésirable de médicaments?
Non, mais les points abordés sont intéressants. Hein. Moi, j'ai bien entendu ce que dit le docteur Dubois. Et je comprends très bien ça. Je comprends bien son analyse. Je comprends pas tout à fait sa position, mais personnellement, pour revenir au problème de la prescription, je suis moi de plus en plus, si vous voulez, enclin à dissocier deux types de situations. J'ai les patients très âgés, qui sont d'ailleurs probablement peut-être les plus fréquents d'ailleurs, qui pour lesquels on a l'impression que trop médicaliser l'affaire pourrait avoir un certain retentissement sur ce que j'appelle l'écosystème. Je crois que tout le monde comprend ce que je veux dire. Mmh. Et des patients plus jeunes que nous voyons, nous, en tant que neurologue, et pour lequel vraiment on a envie d'être agressif, on a vraiment envie de se battre.
Monsieur Dupagne, Bruno Dubois fait un pas vers vous, est-ce que vous allez faire un pas vers lui?
Eh bien justement, je voulais dire que j'étais totalement d'accord avec lui.
Ah. Ah.
C'est-à-dire que, quand j'étais jeune, si je puis dire, l'Alzheimer concernait une démence qui s'installait chez quelqu'un de 50, de 60 ans, un véritable drame social, une catastrophe absolue. Et il y a eu un glissement progressif vers les personnes âgées et la démence sénile qui petit à petit a été englobée dans l'Alzheimer. Ce dont je vous parle, ça concerne essentiellement des gens de plus de 75 ans, qui constituent le gros des patients. Il est évident que quelqu'un de 55 ou 60 ans qui s'enfonce dans une démence, j'ai envie d'être très agressif et d'essayer beaucoup de choses, y compris des choses qui peuvent être un petit peu difficile, mais le gros des patients dont nous parlons sont des vieillards.
Alors Florence Pasquier, est-ce qu'il n'y a pas donc une petite nuance à donner à votre notion d'instaurer dès qu'on a fait le diagnostic?
Je reviens sur faire le diagnostic, parce qu'effectivement, il faut que ce soit le bon diagnostic. Il y a des pathologies qui peuvent ressembler à la maladie d'Alzheimer et qui ne sont pas des maladies d'Alzheimer et pour lesquelles les traitements peuvent être complètement délétères. Donc il y a deux choses à prendre en compte. Ce qui pourrait avoir un effet négatif dû aux propriétés du médicament et qui entre dans un contexte médical particulier. Et puis il y a aussi le fait de ne pas avoir le bon diagnostic. Donc au moins...
Mais même quand le diagnostic est fait, vous avez dit tout à l'heure, moi je suis pour mettre tout de suite. Mm-hmm. Et là vos deux confrères avaient un consensus en disant attention quand même, c'est le sujet très âgé.
Mais je crois qu'il faut, encore une fois, c'est exactement ce qui est écrit dans les recommandations, c'est qu'il faut peser le pour et le contre. Et il faut voir en fonction des comorbidités et des co-thérapeutiques, juger si on a un bénéfice à tirer du traitement.
Philippe Chambrou.
Alors, il s'agit bien de parler du diagnostic de la maladie d'Alzheimer et pas de la démence Alzheimer. Mm-hmm. Donc, quand on institue un traitement, bien évidemment, il faut voir le bénéfice qu'on va y trouver.
On va venir sur le diagnostic. Alors,
justement, c'est très important, mm-hmm, parce que quelqu'un qui est déjà sénile par sa maladie et par son évolution, on peut pas imaginer un bénéfice de traitement.
Intérêt ou pas d'un diagnostic précoce? C'est le deuxième podcast de cette émission et ce débat sur l'Alzheimer. Alors, à la lumière de tout ce qui a été dit au cours de la première partie, se pose naturellement la question du diagnostic, et en particulier du diagnostic précoce d'une telle maladie. L'annonce est pas anodine en termes de répercussions humaines qui sont souvent très lourdes. Alors, comment on peut être contre le diagnostic précoce, j'allais dire. Je vais commencer par vous, docteur Dupagne, parce que vous avez endossé ce rôle très courageux de ne pas forcément d'accord contre l'ensemble de nos invités. Comment on peut être contre un diagnostic précoce?
C'est comme pour le dépistage. Pour qu'un dépistage soit utile, il faut que l'intervention ait un intérêt par rapport à la maladie. Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, à partir du moment où on relativise beaucoup l'intérêt du traitement, qu'on pense que les effets indésirables peuvent l'emporter sur le bénéfice, comme en plus, comme on le verra tout à l'heure, la révélation du diagnostic est quelque chose d'assez terrible pour la personne, alors qu'elle est encore peu handicapée, le diagnostic précoce me paraît pas plus utile que de diagnostiquer précocement une tumeur cérébrale ou un cancer du pancréas.
Dominique Dupagne, vous êtes contre l'annonce d'un cancer du pancréas, par exemple?
Je suis contre le dépistage, pas contre l'annonce. Oui. C'est tout à fait différent. Là, j'entends très bien ce que disent mes confrères. Il y a plein de situations différentes. Il ne faut pas, en effet, faire d'amalgame. Vous avez la personne qui s'interroge, qui ressent des choses tout à fait anormales. Je ne parle pas de l'anxieux qui oublie ses clés, en effet, mais vraiment quelqu'un qui sent que ça ne va pas. Et ce n'est pas, pour moi, on pourrait, entre dépistage, diagnostic, le terme est complexe. En tout cas, c'est quelqu'un qui va consulter parce qu'il veut savoir. Et cette personne-là, bien sûr, doit être informé. Et quand mais il y a l'entourage. Oui, et c'est tout à fait différent. Quand c'est l'entourage qui amène le patient en disant, on le trouve ou on la trouve bizarre, docteur, qu'est-ce que c'est? Et on va imposer un diagnostic à quelqu'un qui ne le souhaitait pas forcément.
C'est encore une nuance intéressante, Bruno Dubois.
Oui, c'est un sujet très complexe et malheureusement, tous les arguments ont été présentés, mais doivent être un peu, je trouve.
Je comptais sur le sage.
Absolument, rediscuter un peu. Parce que on a, d'abord, il y a une confusion entre dépistage et diagnostic.
Oui, bon.
Donc, réglons le problème, on parle du diagnostic. Oui. On va pas chercher les gens, dans la population générale. Qu'est-ce qu'on fait rapport à des gens qui se plaignent, etc.
Voilà.
Donc, vous avez dit tout à l'heure, mon cher confrère, que c'est comme les tumeurs cérébrales. Je ne fais pas le diagnostic de tumeur cérébrale. Mais écoutez, on n'a pas le choix. Chez quelqu'un qui a une céphalée, qui a un problème, qui se met à avoir une hémiplégie progressive, qui a un trouble du langage, on se dit pas, tiens, c'est probablement une tumeur cérébrale. Je ne m'en occupe pas. Ça fait partie de notre mission. Nous sommes médecins, nous prenons en charge les problèmes et nous appliquons les connaissances que nous avons. Donc, moi, ça fait partie de mon métier, quelqu'un qui se plaint de sa mémoire, je fais une évaluation et je vais jusqu'au diagnostic. Et puis si c'est le diagnostic au début de sa maladie, c'est un diagnostic précoce. Si c'est un diagnostic qui est fait plus tardivement, ben c'est un diagnostic qui est une forme plus sévère. Mais je ne vais pas me dire, tiens, celui-là, je vais attendre encore un peu avant de faire le diagnostic.
Dominique Dupagne.
Alors, je suis d'accord avec vous. En fait, j'ai employé le mot dépistage à tort, puisque c'est diagnostic. Mais le mot précoce aussi est employé à tort. C'est diagnostic tout court.
Voilà.
À partir du moment où quelqu'un se plaint de troubles, c'est le mot diagnostic. Le mot diagnostic précoce laisse entendre qu'on va dépister la maladie alors qu'elle est très peu symptomatique de façon à avoir une action préventive.
Non, c'est ça
qui fait l'assimilation au dépistage. Donc parlons de diagnostic tout court et nous serons d'accord.
Florence Pasquier.
C'est parce qu'il faut se rendre compte quand même que quand les gens accèdent au diagnostic, en général, il s'est passé 3 à 4 ans et ils arrivent à un stade cognitif déjà très sévère. On aurait fait des choses bien auparavant.
Plutôt que de parler de diagnostic précoce, on devrait parler de diagnostic tardif.
Alors, on devrait éviter les diagnostics tardifs, si on peut reprendre des choses à l'envers. Mais aussi, même pour des patients qui ne se plaignent pas, vous disiez, si c'est la famille qui a repéré simplement les symptômes. Je pense que la famille aussi a besoin de savoir que c'est une maladie, parce que son comportement va complètement changer. Au lieu d'être un peu agressif, faire le malade en disant « fais attention, je te l'ai déjà dit », etc. Il va y avoir une attitude beaucoup plus attentive et compassionnel.
Mais avant, je voudrais rester quand même sur le diagnostic précoce, puisque vous êtes, et je suis parmi ceux qui ont milité pour que le grand public soit au courant d'un certain nombre de choses. On parlait de ces 5 mots, nous avons fait des émissions assez souvent sur des grandes radios, Bruno Dumois et moi-même. Quel est votre sentiment là-dessus, Dominique Dupagne? Vous pensez qu'on en parle trop, que c'est faut pas exporter dans le grand public des examens aussi simples que peut-être le généraliste, lui, n'utilise pas?
On parlait de diagnostic précoce, là, cette fois-ci, vraiment. Et dans le diagnostic précoce, le risque principal, c'est le faux positif, c'est-à-dire l'annonce d'un diagnostic de maladie à quelqu'un qui ne l'est pas. C'est terrifiant de se voir annoncer une maladie potentielle d'Alzheimer, même avec des gants, même avec de l'humanisme, alors que finalement c'est pas le cas, on a eu un petit passage dépressif, ou au contraire on a une mémoire défaillante. Et donc, s'il y avait un avantage énorme, si on était dans le dépistage du cancer du col ou du cancer du côlon, il n'y aurait pas de discussion, si vous voulez. Mais là, comme je me permets de relativiser beaucoup l'intérêt thérapeutique des molécules existantes, en attendant celles que vous allez nous trouver, et j'espère, sont plus efficaces, je ne suis donc pas favorable à la prise de ce risque pour mes patients.
On balaye devant la porte de qui, là? De l'ensemble des médecins ou plutôt des neurologues et des gériatres?
Il n'y a pas de balaye, ménage à faire.
C'est faux positif.
Il y a une sur... c'est ceux qui font ce sont plutôt les consultations mémoire, quand même, ou les gens qui font
donc,
les tests.
Florence Pasquier, c'est faux positif, il y en a beaucoup?
Je peux pas vous dire, moi j'ai l'impression que non.
Vous devez le savoir un peu quand même.
C'est-à-dire que dans les centres mémoire comme les centres universitaires, on s'entoure de beaucoup de précautions, c'est-à-dire qu'on fait énormément pour les diagnostics précoces notamment, on fait des IRM, on fait des marqueurs biologiques du LCR ou des choses comme ça. Donc quand on annonce le diagnostic, on a vraiment
Oui, mais ce que nos auditeurs ne voient pas, c'est quand on a parlé de faux positifs, vous avez hoché la tête. C'est à donc dire que c'est quand même un problème qui vous préoccupe.
Ça c'est certain. Il faut évidemment être très très prudent avant d'annoncer un diagnostic de maladie d'Alzheimer, et c'est une des raisons pour lesquelles quelquefois deux avis sont utiles. D'abord le médecin généraliste qui est le premier à voir s'il y a eu un changement de comportement du malade, et l'entourage peut aussi le confirmer, et un spécialiste.
Oui, j'ai d'abord une question à Bruno Dubois. Est-ce que vous avez l'impression que les campagnes grand public ont entraîné un vent de consultations directes vers les consultations de mémoire?
Si vous voulez, ça a répondu quand même à une inquiétude qu'il y avait dans la population générale. Alors, c'est vrai que c'est à la suite de la médiatisation autour de la maladie d'Alzheimer, vous avez raison. Mais c'est vrai qu'on a créé de l'angoisse et qu'il a fallu répondre à cette angoisse. Et donc, c'est là qu'il y a eu toute une démarche de formation de nos confrères pour leur expliquer comment. Et c'est là qu'on a mis au point des petits outils qui permettent quand même de faire un peu la part des choses.
Philippe Chambreau, et après je reviendrai sur vous, monsieur.
Oui, ça a permis aussi de préciser, de cadrer bien les éléments de diagnostic précoce. Les méthodes actuelles de diagnostic sont pas formatées d'une façon unilatérale, en fait. C'est des faisceaux d'arguments qui permettent d'arriver à un diagnostic à peu près clair. Et on sait très bien que, de toute façon, quand un diagnostic est posé, si un traitement est prescrit, on verra dans la notice maladie d'Alzheimer. Donc, de toute façon, la notion d'annoncer cette maladie va de soi quelque part.
On va venir sur l'annonce, mais on termine avec vous, monsieur Dupin.
Oui, rapidement, vous parliez de vent, je crois qu'on peut parler d'ouragan, carrément. Ouais. Il y a eu des agences de communication, nous le savons tous, et c'est normal que l'industrie communique sur ces produits qui ont battu la campagne pour vraiment insister beaucoup sur cette maladie et sur l'importance de la diagnostiquer et sur les centres mémoire.
Honnêtement, monsieur Dupagne, pour avoir travaillé dans une radio, dans les radios d'État ou les radios périphériques qui sont totalement indépendantes de l'industrie pharmaceutique, le sujet était extrêmement à la mode parce qu'il y avait une demande très importante du public et des gens, et c'était pas une demande suscitée par les médicaments, c'était vraiment une maladie qui fait peur, c'est une maladie qui concerne et qui est quand même de pronostics redoutables et assez fréquents.
La demande existait, mais il y a eu brutalement une réponse, c'est-à-dire que des articles signés par de grands médecins ont expliqué que ça y est, on pouvait faire le diagnostic, on avait des médicaments qui permettaient d'améliorer les choses. Les journalistes parfois sont un peu réducteurs dans la lecture des dossiers de presse, vous le savez, et donc on a pu lire ça et là que enfin on avait des médicaments qui permettaient d'empêcher grand-père, grand-mère de sombrer dans la démence.
Alors, est-ce que c'est un mal de trop parler d'une maladie ? Est-ce que c'est un bien de ne pas en parler assez ?
C'est un mal, en tout cas, de court-circuiter le médecin généraliste. C'est-à-dire que le médecin généraliste, normalement, devrait être le référent pour l'information avec l'aide des spécialistes qui sont ses correspondants.
À aucun moment, j'espère que vous pensez que la presse ait pu court-circuiter le médecin généraliste.
Elle ne l'a pas voulu, mais elle l'a fait. Elle l'a fait. Quand les gens lisent dans la presse une information sur une maladie, que cette information les conduit à aller voir des spécialistes, voir qu'il y a des adresses de centres anti-mémoire.
On est d'accord.
Nous sommes bien d'accord sur le fait que le généraliste qui va être consulté derrière se trouve devant le fait accompli.
Vous êtes tout à fait logique dans votre raisonnement, monsieur Dupagne. Je peux pas toujours être contre ce que vous venez de dire. Effectivement, là-dessus, il y a effectivement à balayer aussi du côté de la presse. Alors là, je suppose qu'il va pas y avoir débat, puisqu'on va parler de la place du médecin généraliste dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. J'allais dire, s'il y a un sujet sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que le médecin généraliste est en première ligne de cette maladie, n'est-ce pas, docteur Dupin ?
Oui et non. Oui et non, parce qu'en première ligne, certes, mais pas vraiment, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, il arrive parfois après une consultation mémoire, une révélation diagnostique, voire parfois l'instauration d'un traitement. Donc, en première ligne, oui, parce qu'il voit les patients au quotidien et qu'il peut constater une dégradation progressive. Oui, parce qu'il peut avoir un patient qui se plaint d'avoir des troubles croissants, aussi bien de mémoire que des troubles cognitifs, et se dire, il faudrait peut-être faire quelque chose pour celui-là, pour des raisons qu'on a vues tout à l'heure dans certains contextes. Mais c'est une première ligne, c'est un peu comme quand on dit que le médecin traitant est le pivot du système de santé, c'est plutôt une cariatide qui soutient le toit qu'un pivot.
Philippe Chambon.
En même temps, c'est une évolution réelle du système de santé, avec la mise en place d'une coordination et le choix d'un médecin traitant, qui logiquement, effectivement, est un chef d'orchestre de l'ensemble d'une organisation avec l'aide des spécialistes pour orienter les patients en fonction des diagnostics réalisés. Par conséquent, effectivement, le début de la prise en charge qui était faite anciennement et peut-être pas définitivement par les spécialistes était, à mon avis, véritablement un moyen de cadrer économiquement les prescriptions de traitement, parce que le diagnostic, de toute façon, il était fait systématiquement déjà avant par les spécialistes. Nous étions là pour dépister, puis ensuite adresser à pour obtenir un véritable diagnostic. On aurait très bien pu imaginer que les prescriptions thérapeutiques médicamenteuses puissent être faites après par les médecins généralistes eux-mêmes. Ça n'a pas été le cas. Ça a été fait autrement, à mon avis, pour des raisons économiques. Quant à la fin de vie, bien évidemment, elle est le biais également de spécialistes par les réseaux d'accompagnement et de soins palliatifs, dans un nombre de cas, ou même de l'hôpital. Mais entre les deux, ça peut durer 10 ans, 20 ans en moyenne.
2008, très long.
Non, je voulais insister sur le fait qu'il ne faut pas généraliser, hein. Je veux pas du tout lancer une sorte de guerre généraliste-spécialiste, c'est pas du tout mon propos. Il y a des spécialistes avec qui nous avons d'excellents rapports, qui écoutent nos points de vue, mais il y a aussi parfois des spécialistes qui considèrent que notre rôle consiste essentiellement à recopier l'ordonnance, et que si nous émettons un avis, par exemple, défavorable à la poursuite du traitement constatant des effets indésirables, la famille nous répond sèchement que le spécialiste l'a très mal pris et qu'il a dit qu'il fallait absolument continuer et qu'il fallait poursuivre le traitement. Donc c'est pas toujours très facile comme position.
Alors on va parler un petit peu de formation, parce que
ça permettrait encore d'être un petit peu à contre-courant.
J'espère.
Je pense qu'on parle toujours, quand on fasse un problème, on dit toujours il faut former les médecins généralistes. Je crois que compte tenu des différences de point de vue que nous avons observées à cette table, la formation pourrait prendre un autre jour. On pourrait imaginer par exemple que des neurologues hospitaliers suivent des médecins généralistes dans leur activité quotidienne ou assistent à des séminaires organisés par des médecins généralistes, afin de recueillir ce point de vue de terrain qu'ils n'ont pas forcément à l'hôpital, de même que nous recueillons leur point de vue d'hospitalier que nous n'avons pas dans nos cabinets. Il y aurait un échange, à mon avis, de pratiques très intéressant.
Cet échange, vous sentez qu'il est insuffisant, alors que peut-être que vous avez une autre opinion. Hôpital universitaire, Bruno Dubois.
Mais on est tout à fait à l'écoute. J'ai participé à un congrès de médecins généralistes. On est bien sûr dans cette volonté d'interaction, d'autant plus que nous considérons que le médecin généraliste a un rôle essentiel. Je ne parle pas de son rôle de pivot dont on parle partout, mais qui est quand même celui du repérage et de l'adressage et de l'orientation. Et ça, c'est une fonction qui est de toutes les façons absolument incontournable, essentielle, fondamentale et qui ne peut être réalisée que sur la base d'une très bonne formation, parce que c'est très très difficile de bien orienter les patients, parce qu'entre ceux qui se plaignent, qui ont peut-être quelque chose, qui n'ont peut-être rien, qui ont quelque chose et qui sont dépressifs, c'est très difficile de faire cette orientation et ça c'est forcément le généraliste qui doit la faire.
Yves Dupin, vous n'êtes pas contre le case management ?
Pas du tout.
Alors maintenant, vous avez été extrêmement courageux pendant cette émission. Vous avez défendu avec beaucoup de conviction les arguments de la médecine générale. Je vous en remercie. Et donc, ça sera votre conclusion, qui sera la conclusion finale.
Moi, je dirais que c'est vous qui avez été courageux de m'inviter, au contraire,
pour entendre une
parole un petit peu contradictoire. Je crois que c'est important, en effet, qu'un généraliste puisse conclure ce genre d'émission pour dire que la confrontation des expériences est enrichissante, que pour les généralistes de terrain qui nous entendent, et ils ont entendu que questionner un neurologue très impliqué dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer dit aussi que chez le vieillard, c'est pas toujours évident de traiter, que c'est pas la même chose que quelqu'un de 50 ans ou de 55 ans qui s'enfonce dans des troubles cognitifs et quelqu'un de 80 ans qui commence à oublier les choses et à se perdre dans la rue, c'est pas la même gravité. C'est pas la même chose, et que donc chaque cas est unique. Autant la maladie du jeune est un vrai combat dans lequel il n'est pas question, en effet, d'être fataliste, autant chez le vieillard, il faut pas savoir raison garder et être un petit peu raisonnable.
Écoutez, j'ai d'autant moins de scrupules de vous avoir invité qu'apparemment votre conclusion a séduit tout le monde. Donc là, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir écouté cette émission. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'animer. N'oubliez pas de valider. On écoute dans l'espace prévu pour la certification sur notre site radioifm.com. Cette émission est réalisée par Benoît Martin, produite par Cathy Masson, préparée par le docteur Dominique Trivio et le docteur Sophie Lemonnier qui était à mes côtés pour la co-animation. Merci à Sanofi Aventis qui poursuit son partenariat avec Radio-IFM en toute indépendance éditoriale, comme vous avez pu le constater. On se retrouve très bientôt sur notre antenne.